Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons en ce début d'année 2019 l'entrepreneur et économiste congolais Al Kitenge. Bonjour Monsieur Kitenge.
Bonjour.
Monsieur Kitenge, vous démarrez l'année en vous exprimant sur les antennes de RFI. C'est l'occasion de vous souhaiter une excellente année, ainsi qu'à tous nos auditeurs, à commencer par ceux de votre pays, la RDC, où malheureusement les antennes FM de RFI sont coupées en ce moment par le gouvernement. Restent les ondes courtes et le satellite pour nous entendre. Al Kitenge, vous êtes stratégiste, lobbyiste et entrepreneur. Vous vivez entre Kinshasa et Londres. Kinshasa, où vous avez créé par le passé 3 entreprises. Vous vous décrivez comme un entrepreneur en série. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire simplement que ma passion est de créer des sociétés pour résoudre des problèmes réels. À partir du moment où ces sociétés prennent l'ampleur qu'il faut, je les passe. Et donc en ce moment, par exemple, je suis en train de terminer une première carrière d'entrepreneur en économie pure. Je suis en train de passer en ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social.
Alors on en parlera dans l'émission, mais revenons sur votre formation. Vous avez été formé à l'école polytechnique de Lubumbashi. Qui avez-vous appris ?
C'est des études d'ingénieur pur et simple, chimie industrielle, qui m'ont permis d'ailleurs de faire une très belle carrière dans le groupe Unilever. J'ai fait une carrière internationale d'ingénieur de production et d'ingénieur de contrôle de gestion.
Où ça ?
À travers le monde. J'ai fait une partie en Afrique, une partie en Europe, avec un grand succès.
Alors au cours de cette émission, nous parlerons bien sûr de votre parcours, mais aussi de l'économie de la République démocratique du Congo, à la lueur de ce qui s'y passe sur le plan électoral, et de vos idées sur la manière de résoudre les problèmes économiques de la République démocratique du Congo. Une première question de Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
Al Kitenge, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle par la CENI, la commission électorale. Ce résultat a été aussitôt contesté. Comment l'économiste que vous êtes et l'homme d'affaires se situe-t-il dans ce débat ?
Très bien. D'abord, je pense qu'il faut regarder le processus lui-même. Il a été chaotique du point de vue organisationnel et il a été contesté pendant le processus lui-même. Et je crois simplement que les difficultés que nous avons aujourd'hui à l'issue du résultat sont, à mon avis, la conséquence de la manière dont le projet a été mené lui-même. Il n'y a pas eu suffisamment de clarté et suffisamment de transparence au cours du processus, et c'est normal qu'aujourd'hui nous ayons de la contestation. Mais après, il faut quand même regarder 3 choses. On a eu une très belle campagne de la Mouka, avec beaucoup de moyens.
Donc la Mouka, c'est le parti
qui a porté Fayulu au devant de la scène, avec beaucoup de moyens et un grand engouement.
Et donc Fayulu, il faut le répéter, c'était un opposant au...
Mais bien sûr, Martin Fayulu est un brillant opposant qui à l'époque de la gestion du président Kabila, s'est montré très actif. Et à côté de ça, il y a quand même l'UDPS avec un ancrage politique extrêmement important.
L'UDPS, le parti de Félix
Tshisekedi. Et il faut reconnaître qu'il n'y a pas de comparaison possible entre le parti de Fayulu et le parti de Tshisekedi, Fayulu lui-même étant un ancien, j'ai envie de dire, allié à l'UDPS.
Vous voulez dire que l'UDPS est beaucoup plus structuré, c'est ça ?
De loin plus structuré, beaucoup plus ancré dans la population. C'est un vieux parti politique, c'est indiscutable.
Est-ce que ce sont des partis qui ont des idées économiques ?
Toute la question de la politique en République démocratique du Congo et de l'économie pose toute la question de la suprématie de la politique sur l'économie, ce qui pose le vrai problème de ce pays. Et je voudrais juste terminer en disant, après, il y a la gestion électorale elle-même, qui a été le fait de la CENI, et malheureusement très influencé par le pouvoir Kabila. Mais je voudrais vous faire remarquer 2 choses. Si vous regardez le score que Fayulu et Tshisekedi prennent ensemble, et vous regardez par rapport à ce qu'a eu Emmanuel Ramazani Shadary, vous vous rendez bien compte qu'il y avait
Monsieur Shadary qui était le candidat, on peut dire...
Porté par le chef de l'État sortant. Vous remarquez très bien qu'il y avait une cassure avec la gestion antérieure, il y avait un besoin de changement. C'est, à mon avis, le plus grand message qu'il faut retenir de cet état de résultats que nous avons aujourd'hui. Et après, après une bonne campagne, après les élections et les résultats qui en sortent, il y a une grande difficulté maintenant, c'est la gouvernance, parce que c'est une autre étape et c'est là-bas que les Congolais attendent.
D'accord. Et c'est de là que viendra le changement, une gouvernance qui sera conditionnée par les résultats des élections législatives.
C'est l'une des choses les plus importantes que les gens n'ont pas réellement bien comprises. Vous savez, nous avons eu 3 élections en une, et pas une seule. Et les gens sont tous focalisés sur l'élection présidentielle. Je voudrais vous dire une chose. Le Premier ministre sera issu de la majorité parlementaire. Et le Premier ministre, selon la Constitution, a tous les pouvoirs de la gestion au quotidien. Et le chef de l'État se cantonne sur 2 matières, les affaires étrangères et la défense, en collaboration avec le Premier ministre. Ça, c'est ce que dit la Constitution. Et donc, de toute façon, au cours de cette transition, nous irons vers cela. Deuxième chose, les élections parlementaires provinciales élisent les députés provinciaux, mais ceux-là élisent les gouverneurs. Et notre pays, et notre constitution, dit que ce pays doit être décentralisé avec des pouvoirs bien transférés vers les provinces. Ce qui veut dire qu'en fait, en réalité, l'élection qui focalise toute l'attention aujourd'hui, qui se trouve être l'élection présidentielle, va être l'élection de l'acteur le moins influent de la prochaine gouvernance. Et il est important que les gens le comprennent.
Bon, néanmoins, c'est le président Kabila qui a fait l'actualité et qui fait encore l'actualité, qui a dirigé le pays pendant 17 années. Il va, comme il l'a annoncé depuis un certain temps, quitter le pouvoir. Quel est son héritage, et son héritage économique notamment ?
Je pense qu'il est difficile... Lorsque un pays est géré de cette manière, sans un plan stratégique connu, admis par tout le monde, de pouvoir faire une évaluation en fin de parcours. Parce que finalement, vous ne savez pas par rapport à quoi vous évaluez. Mais allez, néanmoins, je dois dire une chose extrêmement importante, c'est que nous avons renoué avec la croissance. À l'époque où il arrive au pouvoir, nous étions en récession économique. Nous avons renoué avec une stabilité, une petite croissance. Deux, nous avons quand même passé en termes de budget des quelques centaines de millions à quelques milliards. Il faut savoir que le plus grand putsch est venu de l'activité minière. Et très malheureusement, l'activité minière n'est pas nécessairement de nature à pouvoir distribuer la richesse. C'est le genre de secteur où ils sont très à usage de capitaux intensifs, ce qui veut dire qu'en fait, la rémunération va sur le capital plutôt que sur le facteur humain. Et aujourd'hui, nous avons un pays qui a une certaine taille, mais qui ne répond pas en réalité aux besoins des citoyens. Et c'est ça le plus gros défi.
Est-ce que ça veut dire, Al-Kitenge, que le gouvernement, au cours des dernières années, a eu des objectifs politiques qui primaient sur l'économie ? C'est quelque chose que vous avez commencé à élaborer tout à l'heure.
C'est exact. Toute la question de la République démocratique du Congo, c'est la confiscation de toutes les espèces de pouvoir par le politique. Je donne des exemples simples. Pour être recteur d'une université, il faut être d'une tendance politique. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune raison. Mais ça, on le retrouve à l'école, aux écoles secondaires publiques, aux écoles primaires publiques. Tout est politisé. Je donne un deuxième exemple. Pour devenir chef d'entreprise publique, ce n'est pas vos capacités managériales qui comptent, c'est votre appartenance politique. C'est ce genre de choses qui ont réellement vicié la compétitivité de la nation, la compétitivité de la gestion et de la gouvernance. Et je crois que cette période est une période où on devra être en mesure de pouvoir faire la différence entre les missions publiques et régaliennes de l'État et le développement économique. La première des choses, et il est important que la République démocratique du Congo s'en rende compte, la première des choses, elle est très importante, c'est de se donner un plan stratégique de développement. On n'en a pas un. Et celui-là, il pourrait être aligné sur les 30 ans avec une déclinaison sur 15 ans. Et je dis 15 ans pour une simple raison. Nous n'avons pas un stock de capital humain de qualité capable de porter la compétitivité de la nation. Il faut le mettre en place. Et il faut un minimum de 10-15 ans pour être en mesure de le faire. Donc, à un moment donné, il faudrait bien que les présidents qui arrivent arrêtent de regarder les résultats flashants qui peuvent montrer qu'ils sont actifs alors qu'ils ne sont pas nécessairement efficaces. Il est important qu'on puisse être en mesure d'investir dans le structurant. Et le capital humain est une des choses extrêmement importantes. À côté de ça, il y a des choses importantes. Notre pays ne peut pas se développer sans énergie. Nous sommes le pays qui a le plus grand potentiel hydroélectrique à un seul endroit. Nous avons Inga avec 44-45 000 mégawatts à un seul endroit, mais qui, non exploité, ne représente absolument rien. Et nous sommes totalement incapables de pouvoir transformer les minerais que nous avons, simplement parce que nous n'avons pas assez d'énergie. Et donc, il est important qu'on sache quel est le levier sur lequel nous allons être en mesure de pouvoir actionner pour être en mesure d'avoir un pays qui est compétitif, non seulement aujourd'hui, mais également pour les générations à venir.
Vous mettez beaucoup d'espoir dans le projet d'Inga, Inga 3, notamment, qui fera de la RD Congo un pays exportateur d'électricité. Pourtant, c'est un très vieux projet qui a une trentaine d'années, qui coûte entre 12 et 14 milliards de dollars, qui intéresse les Sud-Africains, qui intéresse les Nigérians, qui pourrait se faire avec des Chinois, qui est loin d'être réalisé encore. Est-ce qu'il n'y a pas des projets plus simples à faire pour un pays qui n'a pas toujours une gouvernance, comme vous l'avez rappelé, idéale ?
Je reviens sur Inga 3. Inga 3 n'est qu'une très petite composante de ce que Inga. Inga 3, c'est entre 2500 et 3000 mégawatts de potentiel hydroélectrique. Inga, c'est 44 000 mégawatts. Et c'est là un grand potentiel. Et pour faire Inga, on est aux alentours de 5 milliards de dollars. Ça peut paraître beaucoup pour un pays dont vous dites que la gouvernance n'est pas nécessairement à la hauteur de la gestion de projet. Mais je voudrais rappeler une chose extrêmement importante. La République démocratique du Congo a opté pour la libéralisation du secteur de l'énergie. Et donc, il n'est pas nécessaire que ce soit le gouvernement qui développe ce potentiel. Et il est important qu'on développe ce potentiel pour une simple raison. En équivalent pétrole, il dépasse les réserves du Nigeria. Ça veut dire qu'en fait, il nous met au devant de la capacité de pouvoir faire ce que moi j'appelle un saut quantitatif, qui est extrêmement important. On ne peut pas continuer à avoir un pays de 80 millions de personnes, 85 millions de personnes, et le gérer avec 5 milliards de dollars. C'est juste impossible. Même un prestidigitateur, il ne peut pas donner des résultats dans ce pays. On a besoin de faire un grand saut, ce que les Anglais appellent un quantum leap, pour être en mesure de pouvoir progresser de manière normale.
Mais comment faire ?
Il faut des grands projets. Et pour ça, pour faire des grands projets, il faut s'organiser dans le temps. Pour s'organiser dans le temps, il faut avoir un projet de plan stratégique de développement qui permette à tout le monde de ne pas arbitrer dans la mandature. À partir de ce moment-là, les gens savent qu'il y a deux choses à faire. Il y a des résultats rapides à montrer pour montrer qu'on fait du travail, les quick wins, comme les appellent les Anglais, mais également qu'il y a des projets structurants qui engagent la République sur le long terme et qui permettent que nous soyons, dans un temps assez acceptable, de passer d'un pays qui bricole à un pays qui se développe et qui se développe de manière tout à fait pragmatique.
Alky Tengué, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Vous êtes un entrepreneur et un économiste congolais. Une question de Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
Pour mobiliser cet argent privé, pour mobiliser le secteur privé autour de ces grands projets structurants, pour leur permettre de se projeter dans le long terme, à 15 ans, à 30 ans, il y a la question bien évidemment de la bonne gouvernance. Et les journalistes, les ONG, les institutions associent souvent, donc la RD Congo, on l'a déjà dit, à la corruption. Ils dénoncent à la fois l'affairisme des milieux politiques, mais aussi les mauvaises pratiques des acteurs économiques. Ils ont raison de faire ce constat ? Et comment on fait dans la perspective de ce que vous appelez être le futur du Congo, c'est-à-dire de grands projets où il faut se projeter, donc il faut de la stabilité, il faut de la visibilité ?
Je suis très content de votre question, et elle est à la fois une question et une réponse. Je m'explique. Aujourd'hui, la corruption chez nous, elle est liée au simple fait du conflit d'intérêts permanent. Je vous disais tout à l'heure, une grande suprématie de l'activité politique sur l'activité économique et de cette démarche sur l'économie par le personnel politique qui est très malheureusement impliqué dans des activités où il ne devrait pas être. Je pense simplement que nous devons avoir ce que moi j'appelle un contrat de société, un contrat social viable qui détermine les contours du pouvoir des uns et des autres. Et il est important que nous ayons un code de conduite. Je pense que cette période de transition devra nous permettre de tirer les leçons du passé. Moi, je pense qu'au-delà de ce que nous avons eu, les conférences nationales politiques qu'on a eues, il faudrait qu'on ait une conférence de société où nous parlons sur comment nous voulons vivre ensemble et qui va faire quoi. Il n'est pas acceptable de penser qu'on va mettre un recteur d'université qui n'est pas le meilleur des profs ou le meilleur des gestionnaires que nous avons, mais simplement parce qu'il a une connotation politique. C'est des choses sur lesquelles on doit simplement s'arrêter.
Kidengue, revenons sur ces grands projets structurants que vous appelez de vos voeux. Quels sont ces projets ? Il y a le projet électrique, mais quels autres projets appelez-vous de vos voeux ?
Nous sommes le point de rupture du continent. Quand vous venez du nord pour aller au sud, vous arrivez à la République démocratique du Congo, vous ne pouvez plus bouger. Nous avons l'obligation de connecter l'Afrique. Nous avons l'obligation de connecter le nord au sud. Il est donc important que nous nous dotions d'un certain nombre d'infrastructures de transport et de mobilité. C'est extrêmement important. On ne peut pas développer un pays si on n'a pas le stock de capital humain qu'il faut, si on n'a pas l'énergie qu'il faut et si on n'a pas la mobilité qu'il faut. Et donc, il est important que nous ayons un plan de mobilité extrêmement important, mobilité non seulement pour les personnes, mais également pour les marchandises, pour permettre un commerce continental important.
C'est-à-dire des routes, des
voies ferrées, des voies fluviales et des accès à l'océan de manière tout à fait professionnelle. Et je crois que la République démocratique du Congo a tous les atouts pour ça. Et il y a là-dedans bien sûr des projets nationaux, mais également des projets transnationaux.
Mais ça veut dire des investissements colossaux.
Et ça veut dire des investissements colossaux, et nous avons les moyens de les avoir, ces investissements colossaux. Nous sommes le pays qui est assis sur 24 000 milliards de dollars en termes de ressources naturelles. Et ça, c'est un bureau anglais qui le dit. Si aujourd'hui nous travaillons sur la viabilisation et la certification de ces réserves, nous avons donc un levier important pour être en mesure d'emprunter sur la place internationale. Deuxième chose, on n'est pas obligé d'investir avec le fonds public. Même l'Europe, ses autoroutes sont en grande partie privées. Ça veut dire qu'en réalité, il y a moyen de travailler sur du partenariat public-privé. Et aujourd'hui, j'ai dit partenariat public-privé citoyen. Ça veut dire population. Et aujourd'hui, je crois simplement que si la République démocratique du Congo s'inscrit dans son rôle géostratégique qui lui permette de pouvoir jouer et pour la nation et pour les autres nations, même les questions de instabilité politique que nous avons et les guerres que nous avons vont devoir être supprimées, simplement parce que nous allons devenir la réponse aux autres. Aujourd'hui, le plus gros problème, la difficulté que nous avons, c'est que nous sommes le problème aux autres.
Vous pensez que la solution du développement en Afrique, elle réside chez vous en RDC?
Mais c'est de toute évidence. Il y a des pays subsahariens comme le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana, l'Afrique du Sud, qui sont en récession économique parce qu'ils n'ont pas d'énergie et nous sommes le problème. Il y a aujourd'hui le Nigeria qui n'a pas d'énergie, qui travaille aux produits pétroliers simplement parce que nous ne donnons pas l'énergie. Il y a des pays jusqu'au nord de l'Afrique qui ont besoin de notre énergie, à qui nous ne donnons pas de l'énergie. Il y a l'Angola qui est en sous-capacité, qui est en train de se débrouiller pour essayer de reprendre son énergie, son économie, simplement parce que nous ne donnons pas l'énergie. Si nous devenons le centre de production et de distribution d'énergie et nous devenons la solution aux autres, les autres vont nous prendre comme un véritable partenaire. Aujourd'hui, on a tendance à nous déchiqueter.
Alors, il y a malgré tout un pays qui arrive à produire de l'électricité et où la production dépasse d'ailleurs la demande locale, c'est le Kenya. La compagnie nationale d'électricité a d'ailleurs renoncé à produire plus parce qu'elle ne sait pas quoi en faire de cette énergie. Écoutez cette correspondance à Nairobi de Sébastien Nemeth.
Cette annonce choc est prise avec prudence par les experts. Le Kenya n'a pas d'excédent, il ne peut pas stocker son énergie et l'exportation est marginale. Il doit donc constamment garder un équilibre entre l'offre et la demande, explique un spécialiste. Aujourd'hui, le pays consomme autour de 2000 MW. La capacité de production atteint 2400, sauf que cette énergie supplémentaire sert de réserve en cas d'urgence. La déclaration de Kenya Power pourrait donc être un choix politique, opéré probablement par le ministère de l'Énergie pour préparer les entrepreneurs ayant des négociations en cours à des jours difficiles. D'ailleurs, le secteur privé est inquiet. Kenya Power doit clarifier quels projets seront visés. Si on gèle tout, ce sera contre-productif. En tout cas, c'est un mauvais signal pour nous, réagit un investisseur. Jared Otieno, le directeur de Kenya Power, précise que tous les projets sur la table seront réexaminés pour voir s'ils correspondent au mieux à la demande, ce qui semble plutôt salutaire. En effet, durant son premier mandat, le président Kenyatta avait annoncé une production de 5000 MW pour 2017, chiffre jugé délirant par certains, mais qui avait créé un appel d'air. Beaucoup de gens pas toujours compétents ont acheté des terrains, lancé des projets. Aujourd'hui, il faut faire un tri, confie un connaisseur. Dans ce grand ménage à venir, certains vont en tout cas se retrouver le bec dans l'eau. Pour construire une centrale, il faut des années de développement, avec des centaines de milliers d'euros engagés avant la signature d'un contrat, indique un expert du secteur.
Sébastien Nemeth, à Nairobi, Al Kitenge, qu'est-ce que ça vous inspire? Cette situation kényane.
Ça m'inspire justement l'une des grandes difficultés des pays africains, l'absence de plan stratégique. Vous savez, sur les questions aussi stratégiques que l'énergie, il faut avoir un plan, il faut savoir exactement où vous allez. On doit avoir la connaissance parfaite des besoins du pays au fil des années. Mais également, aujourd'hui, il y a une idée qui vient de plus en plus claire dans la tête des gens, c'est l'Internet de l'énergie. Ça veut dire en fait un réseau interconnecté de l'énergie. On n'en parle pas encore assez, mais c'est une réalité. Demain est fait d'un réseau international interconnecté d'énergie. Et il est important qu'on commence à le planifier. La difficulté que a aujourd'hui le Kenya à pouvoir donner des perspectives réelles par rapport aux réalités, c'est un, comment vous produisez, à quel coût vous produisez et qui sont les consommateurs. Et il est important qu'aujourd'hui, on se rende compte que le Kenya est aujourd'hui sous l'impulsion des États-Unis dans Power Africa. Ils sont financés sur un certain nombre d'activités, essentiellement de production solaire. Et donc, toute la question aujourd'hui, c'est de dire combien d'argent vous attirez pour produire, de quelle manière et quelle est la rentabilité de l'énergie que vous avez. Et je crois que la plus grosse difficulté que le président kényan a aujourd'hui, c'est de pouvoir expliquer dans le temps où est-ce qu'il veut aller et de quelle manière il va. Et toute la question ici, encore une fois, est politisée. Et il est important que les gens se rendent compte qu'il y a des scientifiques, il faut les écouter. Il y a des praticiens, il faut les écouter. Et toutes les questions de gestion politique ont un impact économique et social sur les gens. Il faut parler avec les gens.
Julien Clemenceau.
On l'a rappelé, la RDC manque d'infrastructures essentielles à son développement et au développement de toute l'Afrique, hein, vous le rappeliez, notamment pour la production d'énergie. On a pu penser à un moment que la coopération avec la Chine pourrait aider la RD Congo à aller plus vite dans la construction de ses infrastructures, mais l'ambitieux programme des 5 chantiers a été un échec. Vous associez aussi cet échec toujours à l'émission de la politique dans ces projets ?
Non. Il y a quelque chose d'extrêmement important, vous l'avez dit. Le programme chinois, avec les 5 chantiers. La Chine savait exactement ce qu'elle voulait chercher en Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo. Mais la République démocratique du Congo ne me donne pas l'air d'avoir eu un plan exact pour la Chine. Par exemple, nous avons...
Elle cherchait quoi ? Des minerais ?
Mais bien sûr, et aujourd'hui, la Chine s'est véritablement posé sur la République démocratique du Congo et a racheté y compris des mines qui étaient américaines. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, la Chine se positionne de manière claire en sachant exactement ce qu'elle veut. Elle veut avoir un contrôle sur le cobalt de manière tout à fait particulière, de manière assez claire. Elle veut avoir du contrôle sur l'or.
Donc le cobalt qui est un minerai stratégique
pour les batteries électriques, oui, tout à fait. Et par contre, je dis, la difficulté, et je le répète, pour la République démocratique du Congo, c'est de ne pas avoir son plan stratégique de développement et ici, son plan général d'aménagement du territoire. Parce que vous savez, accumuler des infrastructures, il faut les accumuler de manière tout à fait progressive, et il faut savoir lesquelles vous commencez pour être en mesure d'avoir des effets immédiats, mais également dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui n'a pas un plan général d'aménagement du territoire. Nous sommes encore assis sur l'aménagement du territoire de l'époque belge qui était destiné à exporter les matières premières. Et donc, nous continuons à faire exactement la même chose. Aujourd'hui, nous devons avoir un plan général d'aménagement du territoire qui intègre la République, d'abord avec elle-même, parce que nous avons un territoire de 2 345 000 km², c'est un sous-continent, mais également qui nous met en contact, en communion avec les autres parties du pays, dans la région, pour être en mesure de rester dans une cohérence de mobilité et économique.
Arrêtons-nous un instant, Kitenge, sur cette question du cobalt. Comment la RDC, comment le gouvernement devrait-il gérer, selon vous, cette exploitation du cobalt et cette vente du cobalt aux Chinois et aux autres?
Mon point de vue est très simple, c'est que si nous avions l'énergie nécessaire qu'il faut, et ça, il est important que nous trouvions des solutions, le plus important, ce n'est pas d'extraire du cobalt et de sortir des concentrés de cobalt, c'est d'extraire du cobalt métal sur l'étendue de la République démocratique du Congo et les transformer localement, être en mesure de sortir le plus de valeur ajoutée localement. C'est là-bas que se trouve notre responsabilité. Parce qu'un jour, ce cobalt, il n'y en aura plus du tout, mais qu'est-ce que nous allons raconter aux générations à venir? Il faudrait bien que nous soyons en mesure de leur dire, nous avions du cobalt ici, mais aujourd'hui, vous avez des infrastructures, vous avez des universités, vous avez des écoles, vous avez des systèmes de santé, et ça, c'est le fruit du cobalt. Ça, c'est l'héritage que nous sommes censés donner à nos enfants et aux générations à venir. Et aujourd'hui, de la manière dont les choses se passent, faute d'énergie, tout le monde concentre un petit peu le cobalt et le sort sous forme de concentré dans les grands camions, et ça va à l'extérieur, et c'est là-bas que la valeur ajoutée est faite. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est qu'au-delà du cobalt, il y a bien sûr d'autres minéraux qui sont des sous-produits et que personne n'évalue. Et on ne peut pas continuer comme ça, parce que nous sommes en train d'exporter les emplois, nous sommes en train d'exporter les taxes.
Julien Clemenceau.
On parlait de la coopération avec la Chine sur les projets d'infrastructure et aussi de tout l'intérêt qu'a la Chine vis-à-vis des matières premières présentes dans le sous-sol congolais. La Chine, est-ce que ça peut malgré tout être un bon partenaire pour le Congo et à quelles conditions? Et un bon partenaire plus largement pour l'Afrique? On peut penser que ça fait quand même un partenaire de plus, hein. Avant c'était essentiellement des rapports avec l'Europe, maintenant ça s'est élargi, il y a la Chine bien sûr, il y a tout un tas d'autres nations comme l'Inde qui s'intéressent également aux possibilités offertes par l'Afrique.
Je pense que la faute d'un certain nombre de pays africains, et c'est éventuellement la même faute chez nous, c'est de vouloir partir du monopole occidental au monopole chinois. Je pense que nous avons l'obligation d'avoir des acteurs multi-espèces pour être en mesure d'avoir une comparabilité au niveau de l'offre que nous avons. La deuxième des choses, et ça c'est la faute de la Chine, c'est de toujours vouloir avoir des marchés de gré à gré, et ils travaillent sur l'exim, leur politique d'exim, ça veut dire qu'en fait ils amènent des capitaux, ils vous imposent d'utiliser leur société. En réalité, le drame là-dedans, c'est qu'en étant en dehors de toute compétitivité et de toute concurrence, c'est eux qui imposent les prix. Et c'est malheureusement, dans ce genre de situation, la corruption devient très très facile à mettre en place. Et pour revenir sur cette question, j'ai envie de dire, la Chine peut devenir un bon partenaire dans un panier d'autres partenaires. La Chine seule, face au pays, face à la République démocratique du Congo, c'est une véritable catastrophe et c'est inacceptable. Et je pense simplement que nous devrons être en mesure d'avoir un plan pour la Chine. La Chine a un plan pour les pays africains. La Chine a un plan pour la RDC. Quel est notre plan pour la Chine? À partir du moment où nous avons un plan, il devient assez facile de nous mettre autour d'une table et de dire voilà ce que nous désirons réaliser. Aujourd'hui, par moment, en Afrique, ce sont les Chinois qui vous disent ce qu'ils veulent faire. En fait, ce n'est pas comme ça que ça devrait aller, parce que ce qu'ils veulent faire ne correspond pas nécessairement aux besoins de la République démocratique du Congo ou aux pays africains. Et il est important que le Congo et les pays africains se battent pour avoir un plan pour la Chine, pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle désire obtenir en Chine. Pour moi, la Chine, c'est aussi un marché. C'est quand même 1,350 milliard de personnes. Qu'est-ce que nous vendons à la Chine? Qu'est-ce que nous apportons à la Chine à part ce que la Chine veut avoir chez nous? Il est important qu'on commence à réfléchir de cette manière. Aujourd'hui, la Chine a un problème d'alimentation. Leur terre est complètement polluée par une industrie chimique mal tenu pendant très longtemps. Et donc, ils commencent à avoir besoin de la nourriture de qualité. L'Afrique devrait se donner un agenda agroalimentaire pour la Chine. Et je pense que c'est vers ce genre de choses que nous devrons partir pour être en mesure d'avoir...
Mais là encore, ce sont des matières premières, alors que vous proposez d'exporter vers la Chine du riz, des produits...
De produits alimentaires de qualité qui peuvent être des produits naturels mais également qui peuvent être des produits transformés, mais encore une fois des produits de qualité, parce que l'Afrique a ceci de particulier, c'est qu'elle est complètement vierge. Nous n'avons pas une terre polluée comme la terre
Mais à quel niveau est-ce que ça devrait s'élaborer cette politique chinoise de l'Afrique?
Mais
au niveau de l'UA,
à mon avis chaque pays devrait avoir selon ses spécificités son plan directeur, mais également je pense que pour être en mesure de peser correctement au niveau de l'Union africaine, nous devrions avoir un agenda assez clair pour être en mesure de peser vis-à-vis de la Chine, parce qu'il faut dire que la Chine est quand même puissante. La Chine, aujourd'hui, sa plus grande force, c'est le cash. Et quand tu as du cash, tu dictes la règle. Mais je voudrais une seconde revenir un petit peu sur des questions de gouvernance. Tout à l'heure, on parlait de la corruption. Vous savez, en matière de corruption, il y a deux acteurs, si pas trois. Il y a le corrupteur, il y a le corrompu. Et beaucoup d'entreprises, y compris des entreprises occidentales, se plaignent des questions de corruption, alors que c'est elles, les entreprises corruptrices. Le drame de certaines entreprises, c'est qu'elles veulent avoir des courts-circuits, elles veulent aller vite, elles veulent contourner les règles, mais quand elles tombent sur des difficultés, elles veulent crier sur la corruption, alors qu'elles sont même à la base de la corruption. Et je pense que c'est une des choses qu'il est important de mettre sur la place publique, et il faut en parler. Et aujourd'hui, si on désire avoir une visibilité sur le moyen et le long terme, en termes de travail, un code de conduite est très important. Il est inacceptable, par exemple, que presque toutes les entreprises minières qui travaillent en République démocratique du Congo et en Afrique en général, vous ne savez même pas qui sont les vrais actionnaires. C'est toutes des sociétés portées par des sociétés écrans. On ne peut pas continuer comme ça. Il n'est pas acceptable que toutes ces entreprises travaillent avec une comptabilité double. Je vous donne des exemples simples. Lorsqu'elles vendent les produits, elles les vendent à leurs propres sociétés sœurs qui les achètent à moins cher, parce que simplement ces sociétés font des bénéfices ailleurs. Et lorsqu'elles importent des matières premières en République démocratique du Congo, c'est encore une autre société sœur qui renvoie des produits à des prix très élevés, que l'on appelle les prix des transferts, qui en fait, en réalité, plombent les résultats de l'entreprise locale. Mais ça, c'est des choses que les gens connaissent. Donc, à un moment donné ou à un autre, il faudrait que ça s'arrête. Il y a à un moment donné une éthique qui doit être transversale, respectée par les uns et par les autres, parce que je ne crois pas que l'Afrique pourra se développer aux dépens de l'Occident, ou l'Occident devrait se développer aux dépens de l'Afrique. C'est ensemble qu'on devrait être en mesure de se développer.
Alki Tengue, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Avec Julien Clémenceau, nous vous interrogeons sur votre pays, l'économie de la RDC. Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez en pleine reconversion, que vous quittiez le monde des affaires pour l'humanitaire. Vous dites vouloir apporter maintenant vos compétences pour les activités humanitaires à ADN local, social. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire simplement que chez nous, même la vaccination en République démocratique du Congo, elle est financée, elle est opérée par l'aide internationale. Des choses simples comme les veuves, les orphelins sont traités par des ONG internationales. Je trouve ça aberrant. Il est important qu'à un moment donné ou à un autre, nous apprenions à vivre ensemble de manière correcte. Et je crois simplement que le mouvement associatif doit pouvoir se développer avec des compétences et des capacités managériales importantes. Je pense que j'ai accumulé suffisamment de compétences dans le secteur de la productivité en affaires que je voudrais rapporter dans le secteur social.
Alors, dans les échanges que nous avons eus par mail avant cette émission, vous m'écriviez que votre nouveau réveil matin, je vous cite, c'est de vous attaquer aux aberrations économiques du continent. Alors, vous en avez évoqué peut-être quelques-unes, mais précisément de quelles aberrations parlez-vous ?
Je vais vous dire, par exemple, que la chaîne de valeur agricole chez nous, c'est le champ et par terre, les mamans qui vendent. Notre taux de perte des fruits frais est de 50%. Le circuit de distribution des fruits et légumes chez nous, c'est les mamans qui circulent avec des fruits sur la tête sous le soleil et qui font 25 kilomètres chaque jour pour vendre des produits. Mais c'est complètement ridicule. À un moment donné ou à un autre, il faudrait qu'on arrive à mettre de l'intelligence dedans et qu'on se dise qu'est-ce que nous ne faisons pas correctement et comment on peut le faire différemment. Et moi, c'est ce genre de choses que je dis. On ne peut pas, pendant 60 ans après l'indépendance, être en train de regarder les choses se passer comme ça. Tout le monde sait que les marchés où les gens vendent la nourriture sont insalubres et que les maladies viennent de là. Mais tout le monde regarde et on est insouciant. C'est complètement inacceptable. À un moment donné, il faudrait bien que des gens commencent à mettre des étudiants dessus pour étudier comment on peut faire les choses différemment. On peut être en mesure de regarder comment faisons-nous pour être en mesure de perdre 30-40% de la production simplement parce que nous n'avons pas des chaînes de stabilisation. Mais comment on fait pour qu'on soit en mesure de mutualiser l'argent des gens pour être en mesure de donner des réponses non pas individuelles mais collectives. Et je crois simplement qu'aujourd'hui est venu le moment où mon énergie et ma force devraient aller de ce côté-là.
Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
Dans le contexte actuel, est-ce que vous voyez le secteur privé, est-ce que vous voyez des investisseurs s'intéresser aux réflexions que vous menez, à la manière dont on pourrait investir pour éviter ces pertes en fruits frais? Est-ce que l'argent est là pour faire ce type de projet en dehors du gouvernement, de ce que pourraient apporter les pouvoirs publics?
Je voudrais vous donner deux chiffres. Le premier, c'est nous avons 105 000 femmes qui vendent de manière ambulante les fruits et légumes sur la ville de Kinshasa, avec une moyenne de 20 à 30 dollars de valeur du panier, avec une perte journalière de 10 dollars. Alors faites le calcul. Ces femmes jettent ensemble 1 050 000 dollars chaque jour. Mais c'est invisible parce que chacun jette ça de son côté. Mais je crois simplement que cet argent peut être capté et peut être utilisé de manière intelligente. Je mets de côté cette affaire. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Makutano, qui est en fait le regroupement des opérateurs économiques congolais, qui aujourd'hui est le fleuron de l'économie congolaise et qui désire avoir un mot dans la gestion et la stratégie économique. Parce qu'en fait, si notre écosystème n'est pas en place, quelle que soit votre compétitivité, vous agissez mal. Et je pense que ces deux leviers me permettent de pouvoir être en mesure de pouvoir parler à haute voix. Et aujourd'hui, il y a une chose qui marche très bien, c'est que je parle aux femmes, mais les femmes d'en haut, du moyen, du niveau moyen et d'en bas. Et les gens comprennent la capacité de mettre les choses en mutualisation. Et je crois simplement que la première solution est dans la mutualisation des moyens que nous avons. Je donne un exemple supplémentaire. Nous avons énormément d'aides, la coopération technique belge, la coopération française, whatever. Mais des fois, c'est des millions, comment j'appelle, des millions invisibles. Pourquoi? Parce qu'on les dépense et après, il n'y a rien. Et on les dépense de manière tout à fait perdue. Et je crois simplement qu'il faut passer de l'aide, à mon avis, à la transformation réelle vers les investissements, vers de la production et de la transformation. Et il est important qu'on ne laisse pas les gens d'en bas, les gens qui travaillent dur, continuer à travailler dur. Il faudrait qu'ils travaillent intelligemment. Et pour qu'ils travaillent intelligemment, il faut leur apporter de la compétence.
Vous parliez de la coopération. Pour mener ces projets, il y a aussi la nécessité de mobiliser des fonds et via au-delà de la coopération, via le secteur financier local. Est-ce que les banques, est-ce que le secteur financier congolais aide réellement au développement de l'économie nationale et est-ce qu'il peut mieux faire ou doit-il mieux faire?
Avant qu'il ne soit appelé à la faveur des banquiers qui ont des métiers classiques, il faut leur démontrer qu'on est capable de mobiliser déjà ce qui est mobilisable et qu'on ne le dépense pas correctement. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous montrons de la productivité, il va être facile de pouvoir attirer des capitaux. Il commence à y avoir un intérêt particulier, par exemple de la SFI, qui appuie un certain nombre de banques qui sont sur des chaînes de valeur agricoles. Ça commence à venir. Mais encore qu'à mon avis, ça va devenir un peu plus important le jour où nous allons apprendre à arrêter d'importer du blé, par exemple. Vous savez que nous importons du blé et beaucoup de blé. L'Afrique consomme beaucoup de pain. Nous pouvons produire du blé. Et je pense simplement que c'est des choses que nous pouvons être en mesure de faire. Nous importons énormément de riz. Nous pouvons produire du riz. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables en République démocratique du Congo. Et c'est important de pouvoir faire comprendre aux gens que notre économie, notre développement va passer par de la substitution des produits que nous importons dans un premier temps avant d'aller sur des productions de compétitivité. Juste pour vous donner une autre illustration, nous avons des supermarchés en République démocratique du Congo qui importent de la salade d'Afrique du Sud, qui importent de la salade d'Europe. Mais c'est une aberration. Mais la seule chose, c'est que il n'y a pas de producteur de salade de manière normée et qui emballe correctement. C'est ça le problème. Nous avons une institution qui s'appelle le Fonds de promotion de l'industrie, qui est en train de faire tout à fait autre chose que ce que sont les besoins réels de la République démocratique du Congo pour être en mesure d'aller sur la filière de la petite industrie avant d'aller sur la grande industrie. Et je pense simplement que c'est toutes ces choses qu'il faut arriver à mettre en place au niveau de la conception, au niveau de la stratégie, pour que les gens se rendent compte de où nous désirons aller et que l'on soit en mesure de mettre tous les différents instruments ensemble pour que nous soyons en mesure d'accumuler les résultats les uns après les autres.
Al-Kitenge, l'un des pays africains qui permet peut-être de réfléchir aussi à ce qui se passe sur le continent, c'est le Soudan. Depuis près d'un mois, des manifestations ont lieu contre la vie chère, contre le prix du pain trop élevé, contre les pénuries. Le Soudan est en plein marasme économique. Écoutez ce qu'en disait cette semaine Abla Junaidi dans sa chronique économique matinale sur les antennes de RFI.
Omar El-Bashir ne s'est pas privé de le rappeler, son pays est toujours marqué par 10 années d'embargo. Les États-Unis ont levé une partie des sanctions en octobre 2017, mais le pays reste sur la liste des États soutenant le terrorisme. Et ce n'est pas le moindre des obstacles à l'ouverture économique. Les investissements étrangers seraient bienvenus pour développer des secteurs clés comme l'agriculture. Avec la sécession du Soudan du Sud en 2011, Khartoum a vu 3/4 des revenus du pétrole lui échapper. Il ne touche plus que les droits de passage. Ce sont des milliards de devises en moins pour importer et pour soutenir la livre qui n'a fait que perdre de la valeur, alimentant l'inflation qui a atteint 70% en 2018. Il existe bien des ressources nouvelles comme l'or, mais elles font l'objet de trafic et échappent à l'État. D'ailleurs, pour les manifestants, davantage que les sanctions, ce sont les choix politiques de leur président qui ruinent l'économie. Mauvaise gestion, corruption et des dépenses sécuritaires qui engloutissent une large part du budget. Autre défi de taille, la dette extérieure, 56 milliards de dollars contractés surtout avant l'embargo. Avant d'envisager de solliciter de l'argent frais sur les marchés, il faudra la restructurer. En attendant, le gouvernement soudanais aux abois compte sur ses alliés, des alliés parfois contradictoires, Qatar, Turquie, mais aussi Arabie Saoudite, Égypte, Émirats et même Russie.
Abla Junaidi du service économique de RFI, Soudan, RDC, même combat, Kitenge ?
Oui, peut-être bien, mais pire que ça, vous savez, le Soudan divisé n'est pas viable. Et c'est dommage que ce pays se soit coupé en deux et la viabilité ni de l'un ni de l'autre n'est soutenable dans ce cas. Et aujourd'hui, on commence à le remarquer. Ni le Soudan, ni le Soudan du Sud n'évolue. Et c'est dramatique. Et lorsque vous regardez les montants de la dette extérieure et vous vous rendez bien compte que c'est de la dette que les gens prenaient avec ambition, simplement parce qu'à l'époque, ils avaient des réserves pétrolières. Et les gens qui leur donnaient de l'argent savaient qu'ils récupéraient un pétrole. Aujourd'hui, ils sont pris dans leur propre piège. Et je crois que la plus grosse difficulté, c'est l'absence de diversification des économies africaines. Quand les économies africaines ont des ressources naturelles, elles restent sur les ressources naturelles, elles veulent vivre sur ces prébendes. C'est complètement inacceptable. Et pour moi, la diversification, elle est à deux paliers. C'est une diversification géographique. Il faut être en mesure de produire sur toute l'étendue de la République pour faire fonctionner tous les citoyens qu'ils contribuent à l'économie. Deuxième chose, c'est la diversification verticale, secteur par secteur. On ne peut pas, je le disais tout à l'heure, avoir du pétrole aujourd'hui, du cobalt aujourd'hui et espérer qu'on en aura éternellement. Le cobalt se terminera. Il faudrait bien convertir ce cobalt en route, en école, en hôpital, pour que la compétitivité de l'économie secondaire soit en mesure de devenir l'économie de l'intelligence du futur, parce qu'on a préparé les générations à venir. Et aujourd'hui, quand vous regardez la question du Soudan, c'est encore une fois la suprématie de la politique sur les réalités de la vie économique et sociale. Et il est important qu'à un moment donné ou à un autre, les dirigeants de ce pays se rendent compte qu'il faut changer de fusil d'épaule. On ne peut pas se battre contre le monde entier tout le temps.
Julien Clémenceau.
Parmi vos réflexions sur les économies africaines, vous estimez aussi qu'il y a trop de théories économiques périmées enseignées dans les universités du continent. Vous pensez à quel type de théorie économique ?
Par exemple, un des facteurs fondamentaux de comparaison, c'est le PIB par tête d'habitant. Vous savez, quand vous regardez un pays comme le mien, nous avons un PIB qui est aux alentours de 40, 45 milliards de dollars. Lorsque vous le divisez par tête d'habitant, ça veut dire qu'en fait notre économie n'existe tout simplement pas. Pourtant, le pays est encore là et il marche. Ça veut dire qu'en fait, nous avons 90% de notre économie qui est dans l'informel, qui n'est donc pas mesurée de la même manière que les indicateurs classiques. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous parlez de la croissance, même si elle est de 10% par rapport à la base que nous avons, ça ne tient pas du tout. Il faut faire comprendre aux gens qu'au-delà des chiffres, au-delà des statistiques, il y a des vies humaines. Notre économie doit être une économie qui tient compte de la vérité de la vie et de la qualité des vies des personnes. Je donne une deuxième illustration. Nous avons 80% de notre population qui vit en milieu rural. Et dans ce milieu rural, il n'y a aucune présence de l'État ou quasiment pas. Il n'y a pas de service public. Lorsqu'on parle des statistiques, c'est des moyennes arithmétiques. On a tendance à prendre ces gens-là en compte. Mais tout le monde sait très bien que les statistiques démontrent de manière assez claire que quand vous avez une moyenne arithmétique, mais il y a également les écarts-types. Mais tant qu'on ne tient pas compte de ces écarts-types, tout ce qu'on est en train de donner comme indicateur ne représente absolument rien. Les institutions internationales qui font les études sur la République démocratique du Congo et beaucoup de pays, ils se basent sur les villes qui n'ont aucun aucune commune mesure avec ce qui se passe en milieu rural. Alors, arrêtez de raconter ces choses, elles n'ont aucun sens. À un moment donné ou à un autre, il faudrait qu'on ponde des théories qui répondent à comment nous transformons notre propre population. Par exemple, il y a cette question de la population. On dit nous avons 3,5% de croissance démographique chaque année, c'est trop, il faut arrêter. Mais en parallèle, ce qu'on ne dit pas, c'est que nous avons à peu près 15% de nos enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans. Et tant qu'on ne met pas tous ces agrégats sous un mapping intelligent, socialement responsable, il est difficile de prendre des décisions économiques viables. On ne peut pas gérer un pays comme la RDC, comme on gère les États-Unis. On n'a pas les mêmes configurations. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de la croissance économique de la même manière en France qu'on en parlerait en République démocratique du Congo. Quand on parle de la croissance économique, même quand elle a été de 7, 8, 10% en République démocratique du Congo, mais ça concerne les trois provinces. Et on ne peut donc pas considérer ça comme un indicateur économique viable. Lorsqu'on a parlé de stabilité monétaire chez nous, la seule chose qu'on n'a pas dit, c'est que on avait une stabilité monétaire, mais on n'avait pas de dépenses de l'État, ce qui veut dire qu'en fait l'économie était en train de s'assécher. Et donc au niveau de la qualité des vies, il y avait une dégradation de plus en plus forte. Pourtant, les facteurs macroéconomiques étaient plus ou moins en place. Il faut arrêter de raconter ces choses à nos enfants dans les différentes universités. Il faut commencer à leur dire qu'ils doivent apprendre à réfléchir, à regarder leurs problèmes avec un prisme intelligent pour être en mesure de donner des solutions qui marchent. La seule raison pour laquelle je le dis, c'est qu'on fait la même chose depuis 30-40 ans, mais les résultats sont catastrophiques, on doit arrêter.
Alors vous allez écrire, pondre des ouvrages d'économie, de théorie économique ?
Je suis en train d'écrire un premier livre qui s'appelle « Sine qua non ». Il est quasiment terminé. Il s'attaque à deux choses extrêmement importantes. Un, la modernisation des États. Nous avons des États archaïques. On ne peut pas continuer à travailler avec des outils qui sont archaïques. Il est important que les États fassent ce que j'appelle le quantum leap au niveau de l'organisation de la gouvernance. La deuxième des choses...
Le quantum leap, c'est le saut de qualité.
Le saut de qualité qui est important pour être en mesure de passer à une autre étape de gestion. Deuxième chose, c'est la corruption. Aujourd'hui, toutes les théories sont les théories de lutte contre la corruption. Mais bien sûr, quand vous avez des théories de lutte contre la corruption, vous y êtes et vous allez y être encore demain. Ma pensée à moi, c'est l'éradication et la prévention de la corruption. Et il faut avoir la possibilité de changer de fusil d'épaule, de changer de stratégie pour être en mesure d'éradiquer de manière définitive la corruption. On ne peut pas cohabiter, on ne peut pas flirter avec la corruption. Il faut en arrêter là. Et aujourd'hui, toutes les théories de lutte contre la corruption ont montré les limites. C'est donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aller vers une autre étape et je pense simplement que nous devons aller là-dessus.
Alors, certains pays comme la Côte d'Ivoire, qui depuis la crise post-électorale de 2011 ont de bons résultats économiques, ont été régulièrement accusés de ne pas assez faire dans la lutte contre la corruption. Et est-ce qu'on ne peut pas avoir néanmoins un développement économique et une corruption ? On a l'impression que c'est le cas dans certains pays.
Ça veut dire simplement que si on n'avait pas de corruption, on aurait eu plus de résultats. Alors pour quelle raison on se contenterait de moins ? Il n'y a pas de raison. Et il y a autre chose, c'est que lorsque vous désirez être compétitif et vous désirez avoir des partenariats sur le long terme, il faut baser les partenariats sur l'équité. Et l'équité des partenaires, c'est aussi la capacité à dire « j'ai perdu, mais j'ai perdu de bonnes raisons ». Où j'ai gagné parce que j'étais le meilleur. Et il est important de créer un environnement de confiance. La première confiance est entre les partenaires et les pays, mais la deuxième confiance, elle est interne. Il faut que les citoyens qui fournissent des efforts pour être en mesure de donner des moyens à l'État aient confiance aux gouvernants. On ne peut pas cohabiter avec la corruption. Ça n'a pas de sens. Tout le monde sait très bien que c'est destructeur, c'est un cancer. Et il faut trouver des mécanismes. Il n'y a pas une terre propice pour la corruption. L'Afrique n'est pas propice pour la corruption. Tout le monde a vu ce que la corruption a porté sur le territoire.
Vous êtes un très beau parleur, Alki Tengé, mais toutes ces idées, est-ce que vous les échangez avec les responsables des organisations politiques congolaises ? Est-ce que ça pénètre ? Est-ce que vous êtes isolé ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent votre point de vue ?
Je disais tout à l'heure que je fais partie d'un groupe qui s'appelle Makutano, qui est en fait un conglomérat d'opérateurs économiques congolais. Nous avons comme ambition de commencer à parler aux différents opérateurs politiques et nous avons commencé à leur parler. Par exemple, nous avons essayé de parler aux différents candidats pendant les élections.
Vous avez essayé, mais est-ce que vous avez réussi ?
Oui, on leur parle.
Est-ce que le président élu Tshisekedi est au courant de vos points de vue ? Les parlementaires qui vont sortir des urnes sont au courant de ces idées-là ? Est-ce que ça circule dans la société congolaise ?
Ça commence à circuler dans la société congolaise et c'est dans l'agenda de Makutano de pouvoir le mettre en face des opérateurs économiques. Il n'est plus acceptable de continuer à laisser ces gens nous pourrir l'écosystème et nous rendre incompétents simplement parce qu'ils ne mettent pas le cadre qu'il faut pour être en mesure de travailler. Aujourd'hui, nous voulons réveiller la République démocratique du Congo sur deux choses. On ne peut pas faire le constat selon lequel l'État est absent sur le territoire de la République démocratique du Congo et quand on commence à prendre toutes les actions, on dépense 80% de l'argent en milieu urbain. c'est un non-sens, ça n'a pas de sens. Et il faut être en mesure de se rendre compte que la réalité aujourd'hui des 140 groupes armés, ils sont tous ruraux. Et s'ils sont tous ruraux, simplement parce que l'État n'y est pas. Il est donc important, par exemple, c'est un agenda important que nous sommes en train de mettre devant les gestionnaires du pays, c'est dire, il faut avoir un plan intensif du développement de la partie Est. Ce n'est qu'une question de justice. Il faut dépenser peut-être $1 milliard chaque année pendant 10 ans sur la partie Est pour être en mesure, un, de substituer la guerre à l'économie. Il faut dépenser cet argent sur cette partie pour, de manière intensive, faire sortir les gens qui n'avaient pas d'autre espoir que de faire la guerre vers des véritables opportunités qu'on leur donne. Il faut aller vers la substitution de l'artisanat minier vers l'industrie. Et pour ça, il faut être en mesure d'y travailler et l'État doit avoir un plan de travail fondamentalement axé sur la réparation sociale et économique de la partie Est de la République démocratique du Congo. Si on continue à faire la même chose, à dépenser de l'argent à Kinshasa, à Lubumbashi et ailleurs, nous allons continuer à voir les déstabilisations que nous avons aujourd'hui au niveau de la partie Est de la République démocratique du Congo. Mais dans leur discours, tous les candidats disaient de manière assez claire qu'ils vont pacifier la partie Est de la République et ils ne peuvent pas pacifier autrement qu'en remplaçant la guerre par l'économie.
Al-Kitenge, est-ce que vous avez l'impression que du côté des institutions internationales, on a évolué sur ce sujet, on prend en considération davantage d'agrégats, on prend en considération le fait que les campagnes n'ont pas les mêmes réalités que la ville et que, par exemple, pour développer la partie Est du Congo, il va falloir débloquer des fonds et appuyer la RD Congo pour cet immense chantier?
Je veux vous dire deux choses. La première, c'est que lorsque vous regardez la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la BAD et toutes les autres institutions, elles ont quelque chose de particulier. Elles veulent montrer des résultats. Les résultats sont visibles en ville. Et donc, très malheureusement, elles ne font pas l'essentiel de ce qui est transformationnel. Ce qui veut dire qu'en réalité, à un moment donné ou à un autre, ces gens, ils ont envie de justifier leurs résultats. Et je pense qu'il est important que la République démocratique du Congo se donne un plan de travail et dise à tout le monde, vous voulez nous aider? Très bien, voilà ce que nous voulons que vous fassiez. Et pas laisser les gens choisir ce qu'ils ont envie de faire. Je disais tout à l'heure qu'on a ce que moi j'appelais les millions invisibles. Il y a plein de projets qui ont commencé, qui sont terminés. Le jour où le projet se termine, tout tombe à l'eau. C'est inacceptable. On ne peut pas continuer à dépenser des millions de dollars sans avoir des effets d'entraînement. Et il est donc important, et je le disais tout à l'heure, que le leader du programme de développement, ça ne doit pas être les partenaires, ça doit être la République démocratique du Congo, et qui doit faire venir les différents partenaires dans son programme. Faute de plan stratégique de développement, chacun s'invente son propre programme. Et c'est pour ça que les résultats s'annulent les uns avec les autres.
Une question de Julien Clémenceau sur l'économie continentale, sur la zone d'intégration continentale.
En mars donc 2018, l'Union européenne a voté le projet de zone de libre-échange économique continentale. Et donc là, l'Afrique a développé et mis en place son propre agenda et envisagé sa solution de développement à l'échelle panafricaine. Est-ce que ça vous semble être une sage décision? Est-ce que ça va apporter plus de prospérité au continent face aux blocs que sont l'Europe, la Chine, les États-Unis?
La masse critique est très importante lorsqu'on désire avoir un effet d'entraînement sur les différentes négociations avec les différents partenaires. La difficulté des pays africains, c'est de dire qu'ils désirent aller ensemble. En même temps, lorsqu'on regarde au niveau de la gestion nationale, chacun cherche à rester tout seul. Par exemple, le Fonds monétaire africain qu'ils ont décrété depuis des dizaines d'années, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a toujours pas commencé à fonctionner. Ça montre simplement qu'en termes d'engagement, ça n'y est pas. Ils n'ont même pas ratifié l'acte de création du Fonds monétaire africain. Et je crois simplement que là-dessus, il manque un leadership fort au niveau continental. Et il est important que ces gens apprennent à se parler de manière viable. La difficulté d'un certain nombre de pays, et c'est le cas de la République démocratique du Congo, c'est que 40% des revenus de l'État viennent de la douane. Ça sous-entend qu'en fait, ils ont peur simplement parce qu'en termes d'économie nationale, ils n'ont pas développé des véritables productions internes qui puissent justifier notre capacité à pouvoir échanger avec les autres. Et là-dessus, il est important que nous nous disions comment nous pouvons avoir un plan d'intégration qui n'annule pas certains pays. Et donc, il faut qu'on commence à remonter le niveau de réflexion.
Al-Kitenge, on pourrait vous écouter encore pendant des heures et des heures parler de votre pays, de votre continent, de leurs économies. Malheureusement, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous, Al-Kitenge, d'avoir accepté l'invitation de RFI et de Jeune Afrique. Vous pouvez réécouter cette émission sur les sites internet respectifs de RFI, www.rfi.fr et sur jeuneafrique.com. Et je vous dis pour ma part, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. À bientôt.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.